Qu'est-ce que la vérité ? Cette question a priori simple suscite aujourd'hui une vive controverse. Jésus-Christ a clairement défini la vérité. Découvrez ce qu'elle est et comment y parvenir dans tous les aspects de la vie. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury.
Bonjour à tous. La concordance Strong constate environ 300 usages du mot vérité dans la Bible. Pourtant, aujourd'hui, presque personne ne sait ce qu'est la vérité. Et je crois que cela montre que nous avons perdu notre chemin avec Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible comme nous le devrions. C'est particulièrement vrai aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les nation du droit d'aînesse et dans la nation juive qui est la nation du sceptre. Si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez demander notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie » qui vous expliquera tout ça. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens diront « Moi, j'ai ma vérité et vous, vous avez la vôtre », bien que ces deux vérités soient très différentes l'une de l'autre. Mais c'est impossible car quelqu'un a tort, voire tous les deux. C'est un sérieux problème et c'est le même problème auquel le Christ fut confronté lorsqu'il était sur terre. Il souleva cette question juste avant d'être crucifié. Remarquez Jean 18, verset 37. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Notez cela, il vint dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Cela revêt donc une grande importance. Il continue en disant, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est révélateur. Puis dans la première moitié du verset 38, Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il ne savait pas ce qu'était la vérité. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? La Pâque était arrivée et Jésus-Christ était sur le point d'être sauvagement battu et crucifié et d'être défiguré plus que tout autre homme, comme le dit Ésaïe. Alors, pourquoi le Christ aborda-t-il le sujet de la vérité à ce moment-là? Pourquoi souleva-t-il cette question? Eh bien, cela est certainement en rapport avec la Pâque et avec les jours saints de Dieu. Au verset 37, le Christ discuta de la vérité juste avant la crucifixion. Le moment était très proche, mais Pilate ne savait pas ce qu'est la vérité, tout comme la plupart des gens. Et si nous ne connaissons pas la vérité, nous serons dans les ténèbres spirituellement. Nous devons comprendre cela. C'est un sujet fondamental. Au verset 37, le Christ dit aussi « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Cela est certainement révélateur et d'une importance capitale car il dit « Si vous êtes de la vérité, vous entendez ma voix. » N'est-ce pas important d'entendre la voix de Dieu, d'être sûr qu'on peut l'entendre et qu'on comprend ce dont il parle? C'est une déclaration révélatrice, c'est sûr. Si vous êtes de la vérité, vous entendez la voix du Christ. Revenons encore au verset 38. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Puis au verset 1 du chapitre 19, bien qu'il n'eût rien à lui reprocher, il entama la flagellation du Christ. Il s'agissait d'un tyran païen d'une nature très violente. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate dit alors, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Puis, au verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Jésus-Christ était en effet un vrai homme masculin. Même ce tyran sauvage a reconnu qu'il s'agissait d'un vrai homme. Et il s'y connaissait en guerrier, et le Christ en était un. Il a donc dit « Je ne trouve aucun crime en lui ». Remarquez le chapitre 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Et cela vaut la peine de mort, disait-il. » Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Voici ce chef farouche et déséquilibré à bien des égards, mais il fut saisi d'une plus grande frayeur parce qu'on disait que cet homme s'appelait lui-même le Fils de Dieu, et cela l'effraya encore plus. Il se rendit compte que c'était possible, il y réfléchit et cela a renforcé sa peur. Pilate était certainement un tyran, mais il voyait qu'un vrai homme se tenait là devant lui, et il savait que cet homme était spécial. Il commença à se demander si c'était vraiment le Fils de Dieu qui se tenait devant lui. Était-ce la vérité? Était-ce la vérité? C'est le sujet, en effet, que le Christ lui-même aborda. Donc il s'agit d'un sujet assez important pour que le Christ fasse ainsi. Ce soldat romain violent et barbare était effrayé. Et lorsqu'on pense au Fils de Dieu, si l'on y croit vraiment, eh bien, nous devrions avoir un peu de crainte. C'est ainsi que nous devrions penser. Il s'agit là de la vérité ultime. Pilate était en train de se demander s'il s'agissait en effet du Fils de Dieu, ou bien quelque chose comme ça, et le Christ aborda le sujet de la vérité. C'était juste avant que le Christ ne soit crucifié. Et Pilate dit à environ 3 reprises, « Je ne trouve point de crime en lui. » Mais il procéda toutefois à sa crucifixion parce que les Juifs l'exigeaient. Et bien sûr, nous avons tous tué le Christ par nos péchés. C'est ce qui l'a tué, et il devait mourir afin de payer pour nos péchés. C'est la vérité. Puis au verset 28, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif !» Que veut-on dire par « afin que l'Écriture fût accomplie » Cela se réfère à un verset, à un passage d'Écriture qui devait être accompli. Il devait mourir. Et il le savait, il devait être flagellé férocement avec des fouets qui avaient du plomb au bout et qui déchiraient la chair, chose à laquelle il dut se préparer. Au verset 30, cela parle de la mort du Christ. C'était fini, terminé. Le Christ accomplit le travail pour lequel il était venu ici-bas. La vérité est basée sur l'Écriture. C'est l'Écriture qui est la vérité, et vous pouvez recevoir de nombreuses bénédictions lorsque vous avez la vérité. La Bible en parle dans plusieurs passages. Dans le psaume 91, au verset 4, il est dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Vous avez un bouclier et une cuirasse. C'est le rôle que Dieu veut jouer pour vous dans ce monde dangereux. C'est une grande force et une grande protection. Le verset 3 du psaume 43 dit « Envoie ta lumière et ta vérité ». Ici, Dieu nous dit que si vous avez la vérité, vous serez éclairé. Vous ne serez pas dans les ténèbres. Je paraphrase pour vous Ésaïe 59, verset 8, où il est question de paix et de vérité. Si vous avez la vérité, vous avez aussi la paix, en effet. Puis Zacharie 8, verset 19, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Si vous aimez la vérité et la paix, vous aurez de la joie, de l'allégresse et des fêtes joyeuses. C'est une promesse de Dieu, cela s'accomplira donc certainement, car Dieu ne peut mentir. Or, Satan ne peut pas dire la vérité, il n'y a pas de vérité en lui, c'est incroyable, et il est le Dieu de ce monde. C'est ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Voilà donc les bénédictions qui viennent avec la vérité, mais il y aura aussi des malédictions si nous perdons la vérité. Nous devons donc en être conscients également. Voici quelques versets concernant l'Église de Dieu en ce temps de la fin. Elle avait la vérité, mais maintenant elle est dans une condition déplorable. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces gens n'aimaient pas la vérité. Eh bien, nous devons aimer la vérité, sinon nous aurons de graves problèmes. Verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils ne voulaient tout simplement pas suivre Dieu, ils voulaient aller dans le monde et y faire tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, vous pouvez lire Daniel 8, verset 12, où il est dit que le peuple même de Dieu jeta la vérité par terre. Ils n'en voulaient plus, ils l'ont jetée par terre. Pas étonnant donc qu'ils aient péri. C'est un grave problème. Nous devons connaître la vérité, surtout maintenant, au temps de la fin. Et nous devons l'aimer, le message de Malachie vous en dira beaucoup à ce sujet. Nous devons aimer la vérité. Permettez-moi de vous lire un passage sur l'amour qui a un rapport avec la vérité. Voici ce que dit 1 Corinthiens 13, verset 1. Il s'agit de l'amour de Dieu, il parle de l'amour agapé. Il s'agit de l'amour de Dieu et Dieu ne cesse de le répéter dans ses Écritures. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'amour est tout. Dieu est amour. Il continue en disant, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est tout. » C'est ce qu'il dit. Maintenant, j'aimerais lire le verset 6. J'aime un peu mieux ce verset qui est beaucoup plus clair à mon avis. Le verset 6 dit que l'amour de Dieu ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous voyez, cet amour de Dieu se réjouit de la vérité et nous pouvons nous aussi et nous devons nous réjouir de la vérité. Elle apporte la joie et l'allégresse dans nos vies. Dieu se réjouit de la vérité. Et il veut que nous suivions cet exemple. Ainsi, nous aurons une grande joie, des fêtes joyeuses et une vie merveilleuse. Il s'agit de l'amour de Dieu qui est une partie importante de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Nous devons la connaître. Éphésiens 4, verset 15 dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Le Christ est le chef de l'Église. Nos paroles doivent être motivées par l'amour et non par haine ou quoi que ce soit d'autre. Puis dans 1 Timothée 6, verset 5, il est dit que les esprits corrompus des gens sont privés de la vérité. Ils en sont privés de bien des façons, parce qu'ils cherchent à gagner de l'argent, mais pas la piété. C'est ça le problème. Ce monde a besoin de la vérité, mais dans ce cas, ils ont surtout envie d'argent. Puis au verset 32 de Jean 8, il est dit que la vérité vous affranchira. Au verset 40, nous apprenons que les gens essayaient de tuer le Christ parce qu'il leur disait la vérité. Oh, comme ils ont été trompés, et comme ce monde est trompé. C'est Apocalypse 12, verset 9. Le monde entier est trompé sur des questions si importantes et certainement sur la vérité. C'est une puissante tromperie. Et ici, le Christ était sur le point d'être crucifié. Il ne savait pas qui il était. Ils le tuèrent parce que les gens le réclamaient. Mais notez bien, ce n'est pas cela qui nous sauve, c'est-à-dire la crucifixion du Christ. Cela ne suffit pas, c'est par sa vie que nous serons sauvés. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Vous pouvez lire vous-même au sujet de Satan dans Jean 8, verset 44. C'est un meurtrier, un menteur, et il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui, et il n'y a rien d'autre que le contraire de la vérité. C'est un vrai problème. Dans Jean 17, verset 17, cela dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Voici la vérité, la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ta parole est la vérité. Cette parole, c'est le Christ sous forme imprimée. Voilà à quel point c'est important. C'est la raison d'être de votre Bible. C'est le Christ sous forme imprimée et vous pouvez en croire chaque mot. Et vous pouvez le prouver, absolument. Matthieu 4, verset 4 dit que nous devons obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un commandement, vous voyez. Cela nous distingue du monde. C'est la définition d'être sanctifié. Cela nous distingue de ce monde et nous sommes du côté de Dieu lui-même qui nous soutient et nous aime. De toutes les manières imaginables. Le verset 19 ajoute ce qui suit. « Et je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Cette vérité vous sanctifiera. Elle vous mettra vraiment en phase avec Dieu. » Et qu'y a-t-il de plus important que cela? Il n'y a rien de plus important. Allons à Zacharie 8, verset 3. Remarquez cette déclaration étonnante. Dans Zacharie 8, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Jérusalem est donc la ville de la vérité. N'avons-nous pas besoin de ville de vérité aujourd'hui? Jérusalem deviendra la capitale du monde et même de l'univers. Et Dieu dit ici qu'elle sera une ville de vérité et elle enseignera au monde entier comment avoir des villes de vérité. Quelle merveilleuse vérité! C'est la vérité! La parole de Dieu est là pour nous tous. Sa parole est la vérité. Remarquez quels en seront les résultats, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem. Ils sont en sécurité et personne ne leur nuit. Chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Ils atteindront un âge avancé. Verset 5, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Imaginez, c'est la ville de la vérité et personne ne commet des violences. Ils s'aiment les uns les autres, ils aiment leurs enfants, et ils aiment les personnes âgées et prennent bien soin d'elles, s'assurant qu'elles passent une vie merveilleuse jusqu'à la fin, sur le plan physique en tout cas. Remarquez le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant, c'est-à-dire du monde entier, je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Pensez-y, il y aura des gens du monde entier qui viendront en plein cœur de Jérusalem et verront comment avoir une ville de vérité et tout un continent de vérité. Tout le monde aura la vérité partout dans le monde. C'est un bel avenir. Comment ne pas s'en réjouir quand on le compare à nos villes d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui? Nous avons désespérément besoin de cela et Dieu va nous le donner. Et vous pouvez prouver que c'est vrai partout dans la Bible. Vous êtes en mesure de prouver cela et nous pouvons vous montrer cela chaque fois que vous voulez le vérifier. Nous pouvons certainement le faire et vous pouvez le prouver. Vous n'aurez pas à suivre un homme, jamais. Vous ne devez pas le faire. Eh bien, dans le reste du passage, il est question de la vérité et de la paix. J'aimerais vous relire la dernière moitié de Zacharie 8, verset 19. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix! Aimez la vérité et la paix, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. N'est-ce pas la vision la plus merveilleuse qui soit? À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.